Deuxième partie. La montagne. Samedi 25 avril 1925. À 60 km de distance, l'Everest domine déjà non seulement les hauts pics de la chaîne himalayenne à l'horizon, mais aussi le ciel tout entier. Si je soupçonne le diacre d'avoir apporté un drapeau britannique à planter au sommet, la montagne arbore son propre fanion. Un long panache blanc fait de brume et de poudre de neige qui s'étend sur au moins 20 km, porté par le vent d'ouest au-dessus des plus petits sommets du massif enneigé de l'Everest.
« Stupéfiant !»
murmure Jean-Claude. Nous sommes partis devant tous les cinq, distançant les Sherpas et les Yaks, et avons grimpé une petite colline à l'est du col. Tandis que Passang reste à quelques mètres derrière nous, légèrement en contrebas du sommet, tenant les rênes du poney blanc de JC, qu'effraient les vents sur le Pangla, la dernière passe avant le Rongbuk et l'Everest, nous autres devons nous coucher sur les blocs rocheux, sous peine d'être balayés. Au bout de la rangée, le diacre se redresse sur son coude droit et tente de stabiliser ses jumelles militaires de sa main gauche. Puis vient Reggie, à plat ventre, les semelles de ses bottes formant comme des points d'exclamation inversés, qui tient à deux mains un télescope de type marin posé sur le rocher devant elle. Couché à côté d'elle, Jean-Claude regarde vers le sud à travers ses lunettes d'alpinisme. Enfin, je me tiens légèrement en retrait, appuyé sur mon coude droit. Nous sommes tous les trois coiffés d'un chapeau à large bord pour nous protéger du soleil tibétain impitoyable à cette altitude, ma peau a brûlé et pelé ces dernières semaines comme a dû le faire celle de Sandy à Irvine, que nous avons enfoncé le plus possible sur notre tête à cause du vent. Reggie, elle, porte un drôle de couvre-chef, avec un grand bord remonté et boutonné du côté droit et une lanière ajustable pour le tenir sous le menton. Elle nous a expliqué qu'elle l'avait acheté lors d'un séjour en Australie des années plus tôt. Nous énumérons les noms des montagnes comme des enfants s'extasient devant des cadeaux de Noël.
Le haut sommet là-bas à l'ouest, c'est le Cho Oyu, qui culmine à 8200 mètres. Le Gyatchumkang, 7900 mètres. Ce pic qui étend son ombre sur l'Everest, c'est le Lhotse, 8000, je ne sais plus combien.
8501 mètres.
À l'est là-bas, le Chomolonzo, 7804 mètres.
Et le Maluku, dit le diacre, 8463 mètres.
Mon Dieu, murmurai-je.
Les principaux sommets des montagnes rocheuses seraient perdus dans les contreforts de ces géants aux cimes blanches. Les cols, en forme de selle de cheval, les points les plus bas reliant l'Everest aux autres montagnes, se situent tous à plus de 7600 mètres, soit 900 mètres de plus que toute montagne d'Amérique du Nord. D'après Reggie et le diacre, les membres des précédentes expéditions avaient dû apercevoir l'Everest à d'autres endroits au cours de la randonnée vers l'ouest pour rejoindre Shekhar Tsong, en particulier ceux qui avaient accepté de faire un détour par la vallée de la Yarou, à l'ouest de Tinki Tsong, et un peu d'escalade. Mais nous avions passé les cinq dernières semaines à cheminer sous des nuages bas et épais, une pluie glaciale et des rafales de neige, si bien qu'en cette journée ensoleillée au col de Pangla, nous profitons de notre première vue sur la montagne. Reggie me fait signe d'approcher. Je me couche à plat ventre à côté d'elle, sur le sol rougeâtre et caillouteux. Un instant étrangement intime. Et elle tient la lunette du télescope pendant que je regarde.
Mon Dieu.
Apparemment, ce sont les deux seules syllabes que je suis capable de prononcer aujourd'hui. Même à mon âge, j'ai assez d'expérience de la montagne pour savoir qu'un sommet en apparence inatteignable de loin peut révéler des voies, parfois même des voies faciles, quand on est à proximité ou dessus. Mais le sommet de l'Everest paraît trop grand, trop haut, trop blanc, trop venteux, et infiniment trop lointain. Jean-Claude a rampé jusqu'au diacre pour lui emprunter ses jumelles. D'ici, on ne distingue pas le col nord ou le point le plus haut du glacier du Rongbuk à cause des montagnes intermédiaires, dit le diacre. Mais suivez l'arête nord-est. Vous voyez le premier et le deuxième ressaut près du sommet.
Tout ce que je vois, c'est ce que vous appelez le spindrift, cette interminable plumée de neige poudreuse, répond Jean-Claude. Je me demande comment sont les vents sur l'arête nord-est.
Au lieu de répondre, le diacre poursuit. On voit distinctement le grand couloir, ce qu'on nomme aujourd'hui le couloir de Norton, qui descend vers la gauche de la pyramide sommitale.
Ah, oui,
murmure J.C. Dans le télescope de Reggie, qui tremble légèrement, il m'est impossible de voir si le couloir est très enneigé et propice aux avalanches mortelles.
Les vents printaniers sont une bonne chose, dit Reggie,
dont la voix se perd dans ceux du Pangla qui mugissent et sifflent entre les rochers.
Ils emportent la neige de la mousson et de l'hiver, ce qui nous donnera de meilleures chances de retrouver Percy.
Percy. Dans mon impatience à atteindre l'Everest et à débuter l'ascension, j'ai presque oublié Lord Percival Bromley et la raison officielle pour laquelle nous sommes venus si loin. Je frissonne à la pensée que le corps du jeune homme se trouve quelque part sur cette montagne imprenable et inhumaine, balayée par des vents violents. La voix puissante de Passang nous parvient.
« Les porteurs de tête approchent du sommet du col derrière nous. »
À contre-cœur, les yeux humides à cause du vent et de la lumière éblouissante, nous nous relevons tous les quatre, époussetons la poussière et les cailloux sur nos vêtements de duvet et de laine, puis, titubant à cause du vent d'ouest qui nous pousse à présent dans le dos, nous nous dirigeons vers l'étroite piste sur le col. Au Sikkim, nous avons traversé des vallées luxuriantes et brumeuses, des jungles de rhododendrons et de fleurs tropicales, où l'air était si dense et humide qu'on avait peine à respirer. Au terme de longues journées de randonnée à travers une végétation détrempée, nous campions dans des clairières où nous devions arracher les sangsues qui s'étaient accrochées à nos corps. Nous avons évité les dacs, les bungalows placés par le Raj tous les 18 kilomètres, soit un jour de marche, sur la longue route principale menant au Tibet et à Gyantse, sa capitale commerciale. Comme nous l'ont expliqué Reggie et le docteur Passang, les dacs proposaient des lits, de la nourriture fraîche et même des livres, ainsi que les services d'un domestique appelé un chowkidar. Mais notre groupe campait à 2 kilomètres avant ou après chaque dac, sans jamais profiter des bungalows pourtant aménagés pour les voyageurs. Les expéditions britanniques s'arrêtent dans les dacs, a fait remarquer le diacre l'un de nos premiers soirs au Sikkim, alors que nous étions assis autour de notre feu de camp dans la jungle.
Tout comme des centaines d'autres Anglais,
a ajouté Reggie.
Des représentants de commerce en route pour Gyantse, des fonctionnaires du Raj, des naturalistes, des cartographes, des diplomates.
Un coup d'œil à notre matériel d'alpinisme et à nos kilomètres de cordes, et les domestiques feront passer le mot jusqu'au Tibet.
Comment ?
A demandé Jean-Claude. Le diacre a retiré la pipe de sa bouche et sourit. Nous ne sommes pas aussi isolés qu'il le semble, messieurs. Même ici, au Sikkim, le Raj a installé des câbles télégraphiques et téléphoniques jusqu'à Gyantse. Il passe même les hauts cols.
C'est vrai,
a acquiescé Reggie.
Nous resterons sur la grande route commerciale nord-sud jusqu'à la bifurcation vers Kampa Zong à l'ouest, quand nous serons au Tibet. En attendant, en préférant nos campements de fortune au relatif confort des dacs, les seuls que nous abusons sont les sangsues.
En quittant Darjeeling, nous avions pris vers l'est et la rivière Titsa. Les Sherpas étaient partis avant l'aube le 26 mars avec les poneys et les bêtes de somme, et nous les avions rejoints dans 2 vieux camions à Sixth Milestone avec nos sacs à dos et les provisions supplémentaires. Tandis qu'Edward, le chauffeur, et un autre homme repartaient en camion à la plantation, notre caravane s'était mise en route, continuant de descendre les pentes raides jusqu'à Tista, que nous avions traversé avant de prendre la direction du village de Kalipong au Sikkim. Nous avons installé notre campement à l'écart de Kalipong, parce que Reggie ne voulait pas alerter l'irascible major Frédéric Bailey, gouverneur du Sikkim, celui qui, d'après elle, avait saboté les demandes de laissez-passer du comité de l'Everest afin de se réserver la possibilité de vaincre un jour la montagne lui-même. À notre entrée au Sikkim, le garde frontière, un gourka, a accepté le permis tibétain de Reggie sans protester. Nous nous sommes tous amusés de l'entendre se donner des ordres à lui-même. « Garde à vous, tournez à gauche, en avant, marche !» Le diacre nous a ensuite expliqué que c'était l'habitude des gourkas en l'absence d'un officier ou d'un sous-officier. Par 2 fois, pendant nos 6 jours de traversée du Sikkim, des hommes en uniforme de policiers ont abordé notre groupe. Mais chaque fois, Reggie a pris le chef à part pour lui parler seul à seul et, je suppose, lui graisser la patte. En tout cas, aucun n'a essayé de nous arrêter dans le Sikkim, et après une petite semaine à respirer le parfum écœurant des rhododendrons et à marcher dans les hautes herbes infestées de sangsues, nous avons approché du haut col du Gelepla qui marquait la frontière avec le Tibet. nous n'étions pas mécontents de quitter le Sikkim. Il avait plu constamment, tous nos vêtements étaient trempés, et il n'y avait pas eu une seule journée de soleil où nous aurions pu les faire sécher. J'ai cru être le seul à souffrir d'une légère dysenterie, avant de m'apercevoir que JC et le diacre en étaient également affectés. Seuls Reggie et Passang semblaient épargnés. Je prenais de l'opium et de l'acétate de plomb depuis quelques jours, lorsque le diacre s'est aperçu que j'étais malade et m'a adressé au docteur Passang. Le Sherpa a hoché la tête quand j'ai avoué, tout gêné, mes problèmes intestinaux, puis m'a fait remarquer que si l'opium pouvait effectivement agir sur la dysenterie, les effets secondaires de mes prises nocturnes risquaient d'être pires que le mal. Il m'a donné un flacon d'un médicament au goût sucré qui a apaisé mes intestins en une journée. Au début, je marchais devant mon poney et portais plus de 30 kilos de matériel. Mais Reggie m'a convaincu de le monter dès que je pouvais et de laisser les mulets porter mon sac.
« Vous aurez besoin de vos forces sur l'Everest »,
m'a-t-elle dit. Et je me suis vite rendu compte qu'elle avait raison. Un peu affaibli par la dysenterie dont je commençais seulement à me remettre, je me suis habitué, lorsque nous nous arrêtions en fin de journée, à trouver les tentes déjà montées par les Sherpas partis devant. Les tentes Whimper avec nos sacs de couchage préparés et la grande tente servant de cantine. Le matin, j'étais réveillé au son du « Bonjour Saïb » de Baborita et Norbuchedi qui nous apportaient notre café à JC et moi. Le diacre devait boire le sien dans la tente voisine, tandis que Reggie, toujours levé et habillé avant nous, prenait du thé et des muffins avec Passang près du feu. C'est en montant au col de Gelepla, à 4400 mètres d'altitude, que j'ai mesuré combien la maladie m'avait sapé d'énergie. Dans le Colorado, avec mes amis de Harvard, quelques années plus tôt, j'avais pratiquement galopé à l'assaut du pic Longs, à une altitude comparable, et je m'étais senti en pleine forme en arrivant au sommet. Cette fois, en gravissant la piste en lacets puis les cailloux mouillés et glissants, formant comme un interminable escalier naturel jusqu'en haut du col, j'ai été obligé de m'arrêter tous les trois pas pour reprendre mon souffle, appuyé sur mon piolet. Sachant que le gelé plat était deux fois moins haut que l'Everest, ce n'était pas de bon augure. Jean-Claude aussi soufflait un peu plus fort et marchait un peu moins vite qu'à l'ordinaire, alors qu'il avait souvent escaladé des pics de plus de 4200 mètres. De nous trois, seul le diacre semblait s'être déjà acclimaté à l'altitude, même s'il peinait à suivre le rythme rapide de Reggie. Nous sommes arrivés à Yatung, au Tibet. Ici, le contraste était saisissant avec le paysage du Sikkim. Il neigeait lorsque nous avions passé le gelé plat, et la neige et les vents d'ouest nous ont accompagnés pendant que nous traversions la haute plaine tibétaine désertique. Après la débauche de couleurs de la jungle du Sikkim, avec toutes ses nuances de vert et de rose, nous avions pénétré dans un univers presque monochrome. Des nuages gris et bas au-dessus de nos têtes, des rochers gris tout autour, et un sol rougeâtre comme unique touche de couleur. Bientôt, nos visages ont été couverts de poussière rouge, et quand le vent froid m'a fait monter les larmes aux yeux, avant que je prenne l'habitude de porter mes lunettes de protection même à basse altitude, elles ont coulé sur mes joues telles des gouttes de sang. Après avoir passé la dernière nuit de notre randonnée d'approche à l'extérieur du petit village de Chozong, le lundi 27 avril, nous entamons les 27 kilomètres de marche à travers la vallée pour rejoindre le monastère du Rongbuk, notre ultime étape avant l'entrée du glacier du Rongbuk à 17 kilomètres, où nous comptons installer notre camp de base.
« Que signifie le nom Rongbuk ?»
demande Jean-Claude. Le diacre l'ignore, à moins qu'il ne soit trop préoccupé pour répondre.
« Ça signifie « monastère des neiges », dit Reggie.
Nous nous arrêtons au monastère balayé par les vents, le temps de demander une audience et une bénédiction rituelle au Saint Lama, Ngakdwang Batem Tsin Norbo, le grand Dzatrul Rinpoche.
Les Sherpas ne sont pas aussi superstitieux que le sont en général les porteurs tibétains,
explique Reggie alors que nous patientons, mais il est tout de même préférable d'obtenir cette bénédiction avant de poursuivre vers le camp de base et surtout avant d'essayer de gravir la montagne. Mais nos espoirs vont être déçus. Le Saint Lama, au titre sonnant comme une crécelle, nous fait répondre qu'il juge la rencontre inopportune. Dzatrul Rinpoche nous convoquera au monastère, nous annonce son représentant, si et quand il lui semblera opportun de nous faire la grâce de sa présence et de sa bénédiction. Reggie est surprise. Elle a toujours eu de bonnes relations avec les moines et le Saint Lama du monastère du Rongbok, nous dit-elle. Mais quand elle demande à un prêtre de sa connaissance pourquoi Dzatrul Rinpoche refuse de nous voir, le vieil homme chauve répond, en tibétain, que Reggie traduit à notre intention, « Les hospices sont mauvais. Les démons dans la montagne sont réveillés et ils sont en colère. D'autres vont venir. Les Metokangami sont actifs et en colère. » Et « Les Metokangami ?» répète Jean-Claude d'un ton à interrogateur. « Les yétis, nous rappelle le diacre. Ces monstres poilus à l'aspect humain. »
Votre général Bruce nous a assuré, il y a 3 ans, que tous les alpinistes britanniques appartenaient à une secte anglaise adoratrice de la montagne et qu'ils faisaient un pèlerinage sacré au Chomolungma. Mais nous savons à présent que le général Bruce mentait. Vous, les Anglais, n'adorez pas la montagne.
Reggie traduit les paroles du moine aussi vite qu'il les prononce.
Est-ce à cause des lamas danseurs et de ce fichu film de Noël?
Demande Jean-Claude. Reggie ignore sa question et ne la traduit pas pour le moine. Elle ajoute encore quelques mots dans un tibétain mélodieux, incline la tête et nous prenons congé de la présence probablement sacrée du moine qui se remet à faire tourner un moulin à prière. Une fois que nous sommes de retour dans le vent à l'extérieur, Reggie pousse un soupir.
C'est très fâcheux, messieurs. Nos sherpas, et en particulier nos grimpeurs d'altitude, tiennent beaucoup à cette bénédiction. Nous allons devoir établir le camp de base, puis je reviendrai ici pour tenter de convaincre le Saint Lama que nous la méritons.
Oh, diable, ce vieux bonhomme et sa satanée bénédiction, grommelle le diacre.
Non,
dit Reggie en enfourchant élégamment son poney blanc.
C'est nous qui irons au diable si nous n'obtenons pas cette bénédiction pour nos sherpas.
Nous venions d'entrer au Sikkim à la fin du mois de mars et nous étions arrêtés pour la nuit non loin du village de Kalimpong, quand le diacre a reçu un mystérieux visiteur. J'avais remarqué le grand homme mince que le docteur Passang avait fait entrer dans notre campement et vu Reggie échanger quelques mots avec lui. Mais entre les vêtements traditionnels népalais, le bonnet marron en forme de turban, la peau bronzée et l'énorme barbe noire de l'inconnu, j'avais supposé qu'il s'agissait d'un sherpa particulièrement grand, ou peut-être d'un parent de Passang venu nous rendre visite. J'avais tout de même noté qu'il portait des solides bottes de randonnée anglaise, quoique très usées. En réalité, c'était un blanc, un anglais, et pas n'importe lequel. Avant que l'identité de l'inconnu ne commence à se répandre dans le campement, le sherpa personnel du diacre, Nyima Tsering, était venu chercher notre ami. « Un sahib est là pour vous voir, sahib !» lui a dit Nyima avec son rire habituel. Le diacre, J.C. et moi étions en train de bricoler la valve de débit des appareils à oxygène. En apercevant le grand barbu, vêtu comme un paysan népalais et chaussé de bottes anglaises, le diacre s'est levé d'un bond et a trottiné vers lui pour lui serrer la main. Au lieu de l'amener près du feu pour nous le présenter à J.C. et moi, il l'a entraîné à l'écart, de manière assez grossière j'ai trouvé, près du ruisseau qui se jetait dans la tista que nous venions de traverser. À travers l'écran des arbres, nous avons vu l'inconnu s'accroupir à la manière des sherpas, le diacre s'asseoir sur un petit rocher, puis tous deux se sont aussitôt absorbés dans leur conversation.
« Qui est-ce »
ai-je demandé à Reggie quand elle s'est approchée de nous pour nous proposer du café.
« Kate Owings »,
a-t-elle répondu. Je n'aurais pas été plus stupéfait si elle m'avait annoncé que c'était le Christ revenu sur terre. Kenneth Terence Owings était une de mes idoles littéraires depuis que j'avais 12 ans. Celui que l'on surnommait le poète alpiniste était l'un des 5 plus grands ascensionnistes britanniques avant-guerre, mais aussi l'un des poètes les plus célébrés de Grande-Bretagne, de la trempe d'un Rupert Brooke, de ceux que la guerre avait fauchés, Wilfred Owen, Edward Thomas, Charles Sorley, ou qui, tel Siegfried Sassoon ou Ivor Gurney, avait survécu pour la décrire. Kate Owings avait survécu au conflit, après avoir été promu du grade de lieutenant à celui de major, mais n'avait pas écrit un seul vers sur son expérience combattante. À ma connaissance, il n'avait plus écrit un mot de poésie. À cet égard, il ressemblait beaucoup au diacre qui jouissait d'une certaine notoriété littéraire avant la guerre, mais n'avait pas publié, ni manifestement écrit, après le début des combats. Owings n'était pas non plus retourné dans les Alpes, où, tel George Mallory et le diacre, en compagnie duquel il avait souvent escaladé, il s'était pourtant taillé une belle réputation de grimpeur. Kate Owings avait tout simplement disparu. Certains journaux et revues littéraires avaient affirmé qu'il était parti en Afrique, où il avait gravi en solo le Kilimandjaro et n'avait pas voulu rentrer. D'autres soutenaient qu'il était allé en Chine pour s'attaquer à des montagnes sans nom et qu'il s'était fait tuer là-bas par des bandits. D'après la dernière version faisant autorité, Kate Owings, pour oublier l'horreur des tranchées, avait construit un petit voilier et s'était lancé dans un tour du monde avant de périr noyé lors d'une terrible tempête dans l'Atlantique Sud. J'ai de nouveau regardé vers le rideau d'arbres. Vêtu de ce qui me semblait des haillons, sa barbe noire piquetée de gris, Kate Owings était accroupie et parlait à toute vitesse au diacre. J'avais du mal à le croire. Je me suis levé et j'ai pris ma gourde en métal pour me diriger vers le ruisseau.
« Monsieur Deacon voulait être seul avec lui »,
a fait remarquer Reggie.
« Je vais seulement chercher un peu d'eau, je ne les dérangerai pas. N'oubliez pas de la faire bouillir avant de la boire. »
J'ai rejoint le ruisseau presque sur la pointe des pieds et, plongeant ma gourde dans l'eau, je me suis penché vers l'écran de branches me séparant des deux hommes pour tenter d'entendre ce qu'ils se disaient. Si le diacre parlait trop bas pour que je distingue quoi que ce soit, la voix rauque d'Owings portait davantage.
« Et je suis monté suffisamment haut pour voir qu'il y a un important à pic, une paroi rocheuse d'environ 12 mètres, juste sous l'arête de Sommital. Je l'ai vu aux jumelles depuis la vallée et je l'ai de nouveau aperçu en escaladant au-dessus du cirque. »
De quoi s'agissait-il ? Owings semblait mettre en garde le diacre sur les difficultés du premier ou du deuxième ressaut. Le deuxième probablement, puisque l'arête sommitale se trouvait juste après, sur l'arête nord-est de l'Everest. Mais nous connaissions déjà ces obstacles, bien que personne, sauf peut-être Mallory et Irvine le jour de leur disparition, ne soit encore monté assez haut pour s'y attaquer, en particulier le deuxième, plus grand et semblant plus abrupt. Les deux ressauts étaient visibles sur des photographies prises lors de l'expédition de 1921. Pourquoi Owings alerterait-il notre ami sur ces dangers évidents? Par ailleurs, il avait utilisé le mot « cirque » pour désigner le col nord. Peut-être le poète alpiniste avait-il ses propres termes pour qualifier différents reliefs nommés après l'expédition de reconnaissance de 1921. Owings avait-il tenté de gravir seul l'Everest pour se heurter à ces gigantesques obstacles de pierre sur l'arête nord-est? Les ressauts constituaient l'une des principales raisons, avec les terribles vents sur la ligne de crête, pour lesquelles Norton et les autres s'étaient déplacés vers la face nord pour tenter une ascension par le grand couloir presque vertical. Avec des cordes fixes, peut-être. Voilà tout ce que j'ai compris de la réponse étouffée du diacre.
« Oui, oui, ça pourrait marcher », a conclu Owings. « Mais je ne peux pas promettre un camp ou une cache juste en dessous. »
Le diacre a dit quelque chose. Peut-être a-t-il recommandé à Owings de baisser le ton parce que les paroles du poète alpiniste étaient presque inaudibles quand la conversation a repris.
« Le pire passage est certainement la cascade de glace », disait Owings d'un ton pressant.
« La cascade de glace » Parlait-il de la paroi quasi verticale sous le col nord, au bout du glacier du Rongbuk Est ? Certes, c'était un endroit délicat, où sept porteurs Sherpa étaient morts dans une avalanche en 1922, mais comment cela pourrait-il être le pire passage d'une expédition dans l'Everest? Deux expéditions l'avaient déjà franchi et y avaient fait monter de lourdes charges, soit des dizaines de voyages. L'année précédente, Sandy Irvine avait bricolé une échelle de cordes et de bois afin de rendre l'ascension plus facile et plus sûre pour les porteurs. Même pas Sang et Reggie, à en croire cette dernière, et je la croyais, l'avait gravi en escalade libre, se taillant laborieusement des marches dans le mur de glace, et avait pu atteindre le camp sur le col nord avant d'être arrêté par le mauvais temps. Nous avions apporté des échelles de spéléologues, les nouveaux crampons 12 pointes de JC et ces fameux jumards pour faciliter le passage des porteurs.
En succession, ai-je entendu Owings dire de sa voix rauque, blanc, vert, puis rouge. Assurez-vous. Haut, très haut, et...
Je n'y comprenais rien. Soudain, mes bottes ont glissé sur une pierre, alors que j'étais accroupi près du ruisseau, ayant déjà rempli ma gourde. J'ai entendu le diacre murmurer « Chut, il y a quelqu'un ». Tout rouge, mais feignant la nonchalance, je me suis relevé et je suis reparti d'un air aussi innocent que possible vers le campement, ignorant si le diacre et son célèbre ami me voyaient à travers les branches feuillues. Les deux hommes se sont éloignés le long du ruisseau et arrêtés dans une clairière où personne ne pouvait les espionner sans se faire repérer. Là, ils ont poursuivi leur conciliabule pendant une demi-heure. Puis le diacre est revenu seul au campement.
« Monsieur Owings ne se joindra pas à nous pour le dîner ?» a demandé Reggie.
« Non, il repart tout de suite et espère arriver à Darjeeling demain soir. »
a répondu le diacre en me jetant un regard dur. Ma gourde compromettante toujours à la main, j'ai baissé les yeux, me sentant rougir de nouveau.
« Richard, a dit Jean-Claude, vous ne nous avez jamais dit que vous connaissiez Kate Owings ?»«
Je n'en ai pas eu l'occasion. » Il s'est installé sur l'une des caisses et a posé les coudes sur ses genoux.
« J'aurais beaucoup aimé rencontrer M. Owings, »
a poursuivi J.C. d'un ton qui m'a paru légèrement accusateur. Le diacre a haussé les épaules.
Ken est un solitaire. Il voulait me parler d'une chose qu'il a faite et il devait repartir.
« Où vit-il » ai-je réussi à demander.
« Au Népal, » c'est Reggie qui m'a répondu. « Près de Tengbosch, je crois, dans la vallée du Khumbu. »
Je pensais que les Blancs, les Anglais, n'avaient pas le droit d'aller au Népal, ai-je fait remarquer.
« C'est vrai, » a confirmé le diacre.
« Monsieur Owings s'y est installé après la guerre, »
a dit Reggie.
« Je crois que sa femme est népalaise et qu'ils ont plusieurs enfants. Il a été accepté là-bas. Il est rare qu'il traverse la frontière avec l'Inde ou le Sikkim. »
Le diacre n'a rien ajouté.
« Qu'est-ce que c'est que cette histoire de succession blanc, vert, rouge ?» avais-je envie de lui demander. « Pourquoi la paroi de glace, la cascade de glace, comme l'a appelé Owings, est-elle censée être le passage le plus difficile de l'ascension ? Pourquoi parlait-il de camp et de cache ? A-t-il trouvé ou laissé quelque chose sur la face nord de la montagne que n'auraient pas vu les trois précédentes expéditions anglaises ?»
« Avez-vous connu le Major Owings durant la guerre ?»
lui a demandé Reggie.
« Je le connaissais avant, » a répondu le diacre.
Il s'est levé et s'est frappé les genoux.
« Il se fait tard. Allons-nous demander à Semchoubid de nous préparer quelque chose à manger ou nous coucher le ventre vide ?»
Lorsque nous quittons le monastère du Rongbok sans avoir reçu la bénédiction du lama, le mécontentement gronde parmi les Sherpas. Du moins jusqu'au brusque rappel à l'ordre du docteur Passang qui les plonge dans un silence maussade. Puis notre convoi parcourt encore 3 kilomètres dans la vallée, traverse la rivière vers l'entrée du glacier du Rongbok, et environ 1 heure avant le coucher du soleil, nous atteignons le site où les 3 précédentes expéditions avaient installé leur camp de base. L'attente inutile au monastère, dans l'espoir que Dzatrul Rinpoche accepte de nous voir, nous a fait perdre une bonne partie de la journée. J'avoue que je me sens un peu déprimé à notre arrivée. Nos prédécesseurs ont campé exactement à cet endroit dans la vallée glaciaire, protégée des vents les plus violents par une moraine de 12 mètres au sud, avec une vue dégagée sur la vallée par laquelle nous sommes arrivés au nord, des zones plates pour dresser les tentes, et un petit lac où les poneys, les mulets et les yaks peuvent s'abreuver. Un torrent de montagne coule à proximité, et bien qu'il faille faire bouillir l'eau avant de la boire à cause des déjections animales et humaines, et que nous préférions faire fondre de la neige propre pour boire, le torrent nous procure tout de même de l'eau pour nous laver. Les 3 précédentes expéditions britanniques ont laissé des déchets et des débris. Lambeaux de tentes déchirés et piquets cassés, armatures d'appareils à oxygène et bouteilles, murets de pierre à moitié effondrés, tas de boîtes de conserve dont certaines ne sont pas encore rouillées, alors que d'autres contiennent des restes pourrissants des mets de l'année dernière. À gauche du campement, on remarque l'endroit qui devait servir de latrine, le long d'une ligne de pierre plate. Des centaines d'étrons humains gelés s'alignent dans une tranchée peu profonde, que Norton et les autres ne se sont pas donné la peine de combler en partant. Plus déprimant encore, En contrebas du camp de base crasseux de Mallory, se dresse la haute pyramide que la précédente expédition a érigée en l'honneur des hommes morts dans la montagne. Sur la pierre du sommet, on peut lire « En mémoire de 3 expéditions dans l'Everest », puis sur celle d'en dessous, 1921, Kailas, du nom du médecin décédé au cours de l'expédition de reconnaissance à laquelle le diacre a participé. En dessous sont inscrits les noms de Mallory et d'Aervin et des 7 Sherpas disparus dans l'avalanche de 1922. Cette pyramide du souvenir semble transformer tout le camp de base en cimetière. Mais le plus sinistre demeure le massif de l'Everest lui-même, à l'autre extrémité de la vallée du glacier du Rongbuk balayée par le vent, à encore plus de 30 kilomètres. Lorsque la couverture nuageuse se dégage un bref instant, ses flancs et ses arêtes occidentales apparaissent, scintillant dans la lumière du soir et même à cette distance. Il semble difforme et beaucoup trop gros. Contrairement au Mont Blanc ou au Cervin, qui présentent la silhouette d'une montagne distincte, l'Everest évoque une gigantesque canine dans une dentition de géant. L'écume que le vent soulève à son sommet et sur ses arêtes s'étire jusqu'à l'horizon à l'est, passant au-dessus du mont Kailas et des hauts pics himalayens qui se dressent comme un mur construit par des dieux pour nous bloquer le passage. Je sens que le diacre répugne à camper à cet endroit, mais les Sherpas n'iront pas plus loin après cette longue journée à porter leur fardeau. Il avait toujours voulu installer notre camp de base à 5 kilomètres plus loin dans la vallée, là où se trouvait le camp 1 ou camp de base avancé des groupes précédents. Mais nous sommes à 5000 mètres d'altitude, à 3800 mètres sous le sommet de l'Everest, et nous suffoquons déjà sous nos chargements de 27 kilos. Le camp 1, d'après Reggie et le diacre, se situe à 5400 mètres d'altitude. Et, s'il passe pour être le plus ensoleillé de tous les camps sur l'Everest, il est souvent bien plus exposé au vent ratissant le glacier en descendant de la face nord. Il y a également plus de glace que de pierre de moraine là-haut, et le docteur Passang a fait remarquer qu'il serait plus difficile de se remettre du mal des montagnes, même avec une différence d'altitude de seulement 400 mètres. Lors de nos discussions du soir ces 5 dernières semaines, Reggie a régulièrement insisté pour que nous installions la première ligne de tente ici, et le diacre ne semble plus vouloir contester ce point. Il prévoit d'entreposer presque tout notre équipement d'alpinisme au camp 2, à presque 10 km au-dessus du camp de base. Laissant tomber son lourd paquetage, il en sort un sac à dos et dit à Reggie « Allez-y, vous pouvez superviser l'installation du camp de base ici. Je pars en reconnaissance dans la vallée jusqu'au camp 1. »
« C'est ridicule, » répond Reggie. « Il fera nuit avant que vous y arriviez. »
Le diacre fourre la main dans son sac presque vide pour en extraire l'un des bonnets de mineur en cuir, puis allume et éteint la lampe frontale. « On verra si votre machin fonctionne. Dans le cas contraire, j'ai toujours ma vieille lampe torche dans mon sac à dos. »«
Vous ne devriez pas y aller seul, Richard, » dit Jean-Claude. « Surtout pas sur le glacier. Les crevasses seront impossibles à voir au crépuscule. »
Je n'aurai pas à monter sur le glacier pour atteindre le camp 1. J'ai quelques biscuits dans ma poche, mais j'apprécierais beaucoup que vous me gardiez un peu de café et de soupe au chaud. Il se retourne et disparaît dans la vallée envahie par les ombres. Reggie appelle Passang et en quelques minutes, ils organisent le déchargement des yaks et des mulets et décident où ériger les tentes dans ce lieu étonnamment désolé. Passang supervise le montage de la toile d'une grande tente Whymper à l'intérieur d'un sangha ou mur de pierre, tend des rideaux sur le côté et décrète qu'il s'agit de l'infirmerie. Plusieurs Sherpas se mettent aussitôt en rang pour une consultation ou un traitement. Notre vallée est plongée dans le noir, mais l'Everest scintille au-dessus de nous, au loin, dans un isolement froid et hautain. Il me paraît soudain terrifiant. J'ai eu 23 ans le 2 avril, notre dernier jour dans le Sikkim, juste avant de franchir le Gelepla pour entrer au Tibet. Je n'avais prévenu personne, mais quelqu'un avait dû voir la date dans mon passeport parce que j'ai eu droit à une petite fête. Je ne me souviens même pas du nom du village où nous avons dormi cette nuit-là, entre Guatong et la frontière. Peut-être n'avait-il pas de nom. En tout cas, il n'avait pas de dak. Mais il possédait ce que j'ai appelé une roue de ferris. ce que le diacre a appelé une version miniature de la grande roue de Blackpool, et Reggie, une toute petite roue de Vienne. L'engin rudimentaire en bois brut se composait de 4 wagonnets qui n'étaient rien de plus que des caisses en bois. Au point le plus haut de cette grande roue, les pieds du passager n'étaient qu'à 3 mètres du sol. Et pour la faire fonctionner, une fois que les autres m'ont eu convaincu de monter à bord d'un wagonnet, Jean-Claude a dû tirer le suivant vers le bas et le diacre pousser l'autre vers le haut. La machine avait dû être construite pour les enfants du village, bien que nous n'en ayons vu aucun à notre arrivée et n'en verrions pas avant notre départ le lendemain matin. Ils m'ont arrêté au sommet, d'où je voyais les toits des 8 huttes du village, à peine plus haut que mes genoux, et Reggie, le diacre, Jean-Claude, Passang et quelques-uns des porteurs parlant anglais ont entonné un « For he's a jolly good fellow » suivi par un chœur désordonné de « Joyeux anniversaire ». J'avoue avoir piqué un phare, assis dans mon wagonnet avec mes jambes qui pendaient dans le vide. Reggie avait emporté tous les ingrédients nécessaires à la confection d'un vrai gâteau, avec glaçage et bougies, et Jean-Claude et Sam Toubi l'avaient aidé à le préparer sur le primus et le four de pierre avant le dîner ce soir-là. Le diacre a sorti 2 bouteilles de bon cognac, et nous avons trinqué tous les 4 jusqu'à 1 heure avancée de la nuit. Enfin, quand tout le monde a eu rejoint en titubant son sac de couchage, je suis ressorti de ma tente pour contempler le ciel nocturne. C'était un des rares moments de notre passage au Sikkim où il ne pleuvait pas. 23 ans. Ça me paraissait tellement plus vieux, quoique pas plus sage, que 22. Sandy Irvine avait-il 22 ou 23 ans quand il était mort l'année précédente sur l'Everest? Je ne m'en souvenais plus. 22, me semblait-il. Plus jeune que je l'étais ce soir-là dans le Sikkim. Étourdi par les vapeurs de cognac, je me suis appuyé contre un des montants pleins des chardes de la roue et j'ai contemplé, par-delà les cimes sombres des arbres, la demi-lune qui se levait au-dessus de la jungle. C'était un mardi et j'étais à la veille de quitter les territoires cartographiés pour pénétrer dans la nature désertique et sauvage du Tibet. J'ai songé à Reggie. Avait-elle apporté une chemise de nuit? Dormait-elle dans ses vêtements, ses sous-vêtements ou en pyjama comme la plupart d'entre nous? Ou toute nue, comme le faisait le diacre même dans des lieux habités par des mille pattes et des serpents? J'ai secoué la tête pour chasser cette image de Lady Bromley Montfort. Reggie avait au moins 10 ans de plus que moi, sans doute davantage. Et alors, m'a demandé mon esprit désinhibé par le cognac. J'ai regardé la demi-lune, assez lumineuse pour peindre d'argent la cime de la forêt tropicale et faire disparaître les étoiles dans sa lente ascension vers le zénith, et imaginé plusieurs actions héroïques que je pourrais accomplir au cours de notre randonnée ou de l'ascension de nature à me faire aimer de Reggie, au-delà de l'amitié en train de naître entre nous. Elle m'a préparé un gâteau d'anniversaire. Elle connaissait ma date de naissance, avait emporté toute cette farine, ce sucre et ce lait en boîte, et trouvé des œufs quelque part dans ce village ou le précédent, et l'avait fait avec Sam Toubi et J.C. sur un feu de camp. Je ne savais pas du tout comment il s'était débrouillé, mais le gâteau était délicieux avec son glaçage au chocolat. Et il y avait la petite conflagration des 23 bougies de cire allumées dessus. Elle m'a préparé un gâteau d'anniversaire. Dans mon fantasme adolescent, j'ai bientôt effacé la participation de J.C. et de Sam Toubi à la préparation du gâteau, le chant joyeux du diacre et son précieux cognac. Elle m'a préparé un gâteau d'anniversaire. Avant de me mettre à pleurer comme un veau, j'ai réussi à ramper dans ma tente, à retirer mes bottes et à me glisser dans mon sac de couchage en tentant de me bercer avec cette litanie. Elle m'a préparé un gâteau d'anniversaire. Hélas, ma dernière pensée avant de m'endormir a en fait été « J'ai 23 ans. Survivrai-je jusqu'à mes 24 ?» Le premier matin au camp de base, je me réveille avec un violent mal de tête et la nausée. C'est très décourageant puisque je viens tout juste de récupérer complètement après ma crise de dysenterie survenue il y a plus d'un mois dans le Sikkim. Étant le plus jeune, j'ai toujours cru que je serais le plus robuste. Et me voilà l'invalide du groupe. L'espace d'un instant, je ne sais plus quel jour on est, si bien qu'avant de sortir de mon sac de couchage pour retrouver le froid du dehors, au plus chaud de la journée il fera moins 28 degrés Celsius d'après notre thermomètre, j'ouvre mon calendrier de poche. Nous sommes le mercredi 29 avril 1925. Nous avons pris du retard par rapport à Mallory et à Erwin durant la randonnée à travers le Sikkim, mais nous l'avons rattrapé grâce à des raccourcis suggérés par Reggie lors de notre traversée du Tibet pour rejoindre le village fortifié de Shekharzong, accroché à la montagne, avant de prendre au sud vers le Rongbuk. Par ailleurs, nous ne sommes restés qu'une nuit dans certains villages où les précédentes expéditions en avaient passé deux. Il y a donc exactement un an, Mallory, Irvin, Norton, Odell, Geoffrey Bruce, Somerville, Bentley Beatham et quelques autres alpinistes espérant atteindre le sommet s'étaient réveillés pour leur premier jour au camp de base dans cet endroit précis. Jean-Claude, occupé à allumer notre petit réchaud Primus, me souhaite le bonjour. Déjà habillé, il est allé chercher de la neige propre à l'écart du campement que nous ferons fondre pour notre premier café. Aucun Sherpa ne se présente à l'entrée de la tente pour nous apporter des boissons chaudes, comme ils l'ont fait pendant la randonnée. Mais je suppose que Sem Chumbi utilise le plus grand réchaud à brûleurs multiples pour préparer le petit déjeuner dans la grande tente ronde que Reggie a apportée et que nous utilisons comme messe, là où une grande bâche ne suffirait pas à nous protéger des éléments de plus en plus rigoureux. Nous avons apporté trois modèles de tente pour cette expédition. Les lourdes tentes Whymper en forme de A, utilisées depuis des années et lors des précédentes expéditions, que nous comptons planter uniquement dans les camps à basse altitude. Les tentes Mid, plus légères quoique solides, également en forme de A pour les altitudes supérieures. Et ce modèle expérimental en forme d'igloo de Reggie. Il s'agit d'un prototype de tente hémisphérique fabriqué par l'entreprise Camp & Sports, dont le revêtement est doublé de tissu jacquard. La grande tente de Reggie, comme nous l'appelons, possède 8 arceaux de bois que l'on peut plier en deux pour pouvoir les transporter facilement et un tapis de sol intégré. Ici, dans le froid, j'ai regardé Reggie superviser l'installation d'une autre bâche de sol plus épaisse qu'elle a fait confectionner tout spécialement par la Hurricane Smoke Company. Il y a aussi deux fenêtres en mica, là où nos autres tentes n'ont qu'un rabat à l'entrée et pas de fenêtre, et des portes avec une fermeture à lacets compliquée, mais parfaitement hermétique au vent. La grande tente dispose en outre d'un tuyau de poêle ou de ventilation dont on peut modifier l'orientation en fonction des vents. 4 ou 5 personnes peuvent y coucher, confortablement, et 8 ou 9 y sont à l'aise pour prendre les repas. Le premier jour où Reggie et Passang ont érigé la tente igloo au cours de notre randonnée, le diacre a déclaré d'un ton aigre que ce truc ressemblait à un Christmas pudding sans la branche de houx. Pourtant, la grande tente se révèle plus chaude et mieux isolée du vent que nos modèles Whymper ou Mid. J'en prendrai note au cours de nos premiers jours au camp de base. Les futures expéditions devraient se munir de versions plus petites de la tente hémisphérique avec 4 arceaux articulés au lieu de 8 pour les camps en altitude les plus dangereux, les 4, 5 et 6, et le 7 s'il existe un jour. Là où il faut dégager une plateforme en taillant la glace ou la neige ou en déplaçant laborieusement des cailloux. Non seulement la surface au sol d'une telle tente serait moindre sur la montagne, mais elle offre aussi moins de prise au vent. Les violentes rafales qui soufflent aujourd'hui vont glisser autour de la grande tente sphérique, tandis que nos tentes en forme de A battent déjà avec des bruits semblables à des tirs de mitrailleuse. Quel temps fait-il ? Dis-je d'une voix endormie en acceptant ma première tasse de café chaud. « Regardez, » me répond mon ami. Prenant garde à ne pas renverser mon café, je m'accroupis à côté de la petite ouverture solidement fermée par des lanières et jette un coup d'œil au dehors. Le blizzard recouvre tout d'un brouillard blanc. Je ne vois pas les tentes plantées à proximité, pas même le grand igloo au milieu du camp. « Oh merde !» Je trouvais qu'il faisait froid dans notre tente, mais les vents violents qui pénètrent à l'intérieur me font frissonner malgré les deux couches de sous-vêtements longs et la couche de vêtements dans lesquels j'ai dormi. Le diacre est-il rentré de son tour de reconnaissance hier soir? Ce serait tristement ironique que notre alpiniste en chef, fort de toute son expérience, se soit fait surprendre par la tempête et soit mort la première nuit passée hors du camp de base. J.C. hoche la tête en sirotant son café. Il est revenu vers minuit, juste avant que le temps se gâte. Son masque était couvert de glace, et d'après Tenzing Bhotia, Richard avait très faim. « Moi aussi, » dis-je en terminant mon café. J'ai encore mal à la tête et la nausée, mais je suis convaincu que je me sentirai mieux dès que j'aurai mangé quelque chose. Je vais finir de m'habiller. Ensuite, on pourra essayer de rejoindre la grande tente pour aller prendre le petit déjeuner. Qu'en dites-vous? Les bandits nous ont attaqués le 18 avril, alors que nous avions effectué un peu plus de la moitié de notre randonnée de 5 semaines pour rejoindre la montagne. Nous avions campé 2 nuits de suite près de la ville tibétaine de Tinkizong et venions de renoncer à faire un détour par la vallée de la Yarouchou dans l'espoir d'apercevoir l'Everest. La météo était épouvantable, avec un ciel couvert en permanence de la neige et du vent. Nous cheminions sur la principale piste commerciale et approchions du col de Tinkila à 5100 mètres d'altitude quand des cavaliers ont descendu la colline et encerclé notre groupe, obligeant les Sherpas à se regrouper en tête de convoi avec nous et les bêtes. Ils étaient environ 60, tous vêtus d'habits en peau ou en fourrure et de chapeaux à long rabat. Leur physionomie semblait plus asiatique que celle des villageois du Tibet que nous avions croisés au cours de ces 2 dernières semaines. La plupart arboraient une moustache ou une barbe drue, et leur chef, un homme imposant au torse large et au poing énorme, avait les joues aussi poilues que son couvre-chef. Tous portaient des armes à feu, des mousquets du siècle dernier, de vieux fusils de l'armée indienne chargés par la culasse, et jusqu'à des Enfield modernes de la Grande Guerre. Je savais que Reggie et Pasang avaient chacun apporté un fusil, pour la chasse. Et à Liverpool, j'avais surpris le diacre en train de ranger ce qui devait être son revolver de service Wembley dans son sac à dos. Mais aucun d'eux n'a fait le geste de chercher son arme, alors que les bandits fondaient sur nous au grand galop. Nombre de nos Sherpas, surtout ceux qui n'étaient pas des tigres, ont paru effrayés. Pasang affichait un air dédaigneux. Perturbés dans leur routine quotidienne, les mulets se sont agités un instant. Mon petit poney tibétain a voulu s'emballer, mais j'ai planté mes 2 pieds au sol, attrapé sa selle et l'ai à moitié soulevé de terre jusqu'à ce qu'il se calme. Les grands poneys des bandits avaient de longs poils en bataille, mais leur crinière et leur queue étaient savamment tressées, et leur taille se rapprochait plus de celle des chevaux européens que de nos ridicules montures. Quand la poussière rouge est retombée, nous étions divisés en 2 groupes. La majorité des bandits encerclaient les porteurs et les mulets, tandis que le chef et 12 de ses hommes armés nous entouraient, Reggie, le diacre, J.C., Pasang et moi. Les nombreux fusils n'étaient pas pointés sur nous, à proprement parler, mais pas loin de nous non plus. La seule idée qui m'est venue en regardant ces hommes, c'est que nous avions traversé les siècles et venions de croiser Gengis Khan et sa horde. Reggie a fait un pas en avant et s'est mis à parler au chef dans un tibétain rapide, ou un dialecte tibétain, vu que ça ne ressemblait pas exactement à la langue qu'elle avait utilisée pour s'adresser au chef et aux habitants de Yatung, de Fari, de Kampazong et des nombreux villages que nous avions traversés, où nous avions acheté de la nourriture, ou près desquels nous avions campé. Le chef des bandits a découvert ses dents blanches et prononcé des paroles qui ont fait s'esclaffer ses hommes. Comme Reggie a ri, elle aussi, j'en ai déduit que la plaisanterie n'était pas assez dépens. Peut-être se moquait-il plutôt du diacre, de J.C. et de moi. Je m'en fichais tant que ces types ne nous descendaient pas. Mais au moment où cette lâche pensée me traversait l'esprit, j'ai réalisé que s'ils emportaient nos mulets avec tout notre matériel, nos appareils à oxygène, nos tentes, nos vivres, ainsi que l'argent de Reggie et de Lady Bromley, c'en serait fini de notre expédition. Souriant toujours comme un dément, le chef a aboyé quelque chose. Reggie a traduit « Khan dit que c'est une mauvaise année pour se rendre au Chomolungma. Tous les démons sont réveillés et en colère. » Khan, ai-je répété, Étions-nous donc vraiment tombés dans une faille temporelle? Pour une raison ou pour une autre, ça ne m'étonnait plus tant que ça d'être attaqué par la horde mongole de Genghis Khan.
Jimmy Khan, a précisé Reggie.
Elle lui a adressé quelques mots, puis elle est allée vers le mulet qui restait toujours attaché derrière son poney blanc et en est revenue avec deux petites caisses. Après avoir légèrement incliné la tête, elle a offert la première à Khan. Il a tiré de sa ceinture de cuir une lame courbe presque aussi longue qu'un cimeterre et s'en est servi pour l'ouvrir. À l'intérieur, sur un lit de paille, se trouvait un coffret en acajou poli. Rangeant son couteau, Khan a jeté la caisse et plusieurs de ses hommes, en pestant le cheval, la sueur, la fumée et la bouse, ont approché leur monture pour regarder. Le coffret en acajou, tapissé de velours rouge, contenait deux revolvers chromés à crosse d'ivoire tels qu'on en voit dans les westerns, ainsi que des boîtes de cartouches. Les bandits ont poussé un « Ah !» collectif, à moitié admiratif, à moitié jaloux ou rageur. Et Khan les a vertement rabroués. Ils se sont tus. Les autres, qui encerclaient toujours nos sherpas, observaient attentivement. Reggie a repris la parole en tibétain et offert la deuxième caisse à Khan. Une fois encore, il l'a ouverte avec son couteau et en a sorti une boîte qu'il a brandie en criant quelque chose à ses hommes. Elle était remplie de boîtes de chocolat anglais Roundtree que Khan a commencé à lancer à ses comparses. Aussitôt, les bandits se sont mis à pousser des cris et à tirer en l'air, obligeant nos sherpas à retenir les poneys et les mulets. De nouveau, j'ai soulevé du sol ma monture paniquée. Khan a sorti un morceau de chocolat de son papier d'emballage et de ses doigts crasseux l'a porté très délicatement à sa bouche.
« Amande enrobée de chocolat »,
a-t-il dit en anglais.
« Très, très bon. »
« J'espère qu'ils seront à votre goût à tous », a répondu Reggie, passant elle aussi à l'anglais.
« Prenez garde aux démons et aux yétis »,
a averti Jimmy Khan. Il a tiré en l'air avec son fusil, éperonné son cheval hirsute et, dans un nuage de poussière rouge, la horde mongole est repartie vers le nord-est pour disparaître par où elle était venue.
Un vieil ami,
a demandé le diacre quand nous avons eu reformé notre longue caravane et repris la route vers le Tinkila.
Un occasionnel associé d'affaires,
a répondu Reggie. Elle avait le visage rouge de poussière. Je me suis rendu compte que nous étions tous couverts de poussière qui se transformait en une boue rougeâtre sous la bruine glaciale.
« Jimmy Khan »
ai-je dit. Comment a-t-il pu se retrouver avec un prénom pareil ?«
Il l'a hérité de son père »,
a répondu Reggie. Et elle a tiré sur les rênes de son poney obstiné pour l'engager dans la première montée abrupte de la piste, vers le col de Tinkila. Les trois premiers jours, nous sommes bloqués au camp de base. Le diacre devient fou. Moi, je suis fou d'inquiétude parce que l'altitude continue de me donner des migraines, m'oblige à vomir au moins une fois par jour, me fait perdre l'appétit et le sommeil. Le simple fait de me retourner, sur les cailloux, sous la bâche de sol de la tente que mon corps a mémorisée dès la deuxième nuit, suffit à me réveiller pantelant. Le camp de base n'est qu'à 5000 mètres d'altitude. La véritable ascension ne commencera que quand nous aurons passé le col nord, 2500 mètres plus haut. Le site où nous campons n'est guère plus élevé que les sommets alpins sur lesquels je me suis baladé l'année dernière. Voilà ce que je n'arrête pas de me dire. Pourquoi est-ce que je me sens aussi mal ici?
En général, tu ne passais pas plus d'une heure sur ces sommets, idiot, m'explique ma raison.
Or, tu essaies de vivre ici. Je reste imperméable à la voix de ma raison pendant ces trois malheureux jours. Je fais également de mon mieux pour cacher mon état aux autres, mais JC et moi partageons une tente Whimper, et il m'a entendu vomir, suffoqué au cours de la nuit, haleté à quatre pattes sur mon sac de couchage comme un chien malade. Si les autres remarquent ma lassitude lors des repas ou de nos réunions dans la grande tente de Reggie, personne ne dit rien. D'après ce que je vois, ni Reggie ni le diacre ne souffrent de l'altitude, et les légers symptômes de JC sont passés dès le deuxième jour ici. Malgré le froid terrible, le vent et le mauvais temps, nous ne restons pas enfermés dans nos tentes. Le premier jour, en dépit du blizzard et des températures avoisinant les moins 30 degrés Celsius, nous nous sommes aventurés dans le brouillard blanc pour déballer et trier tout le matériel. Les mulets ont été renvoyés à Chozong avec quelques sherpas, puisqu'il n'y a pas d'herbe pour eux ici. Et les yaks ont été attachés dans un endroit abrité, à un peu moins d'un kilomètre vers le nord, où les pauvres bêtes pourront gratter la neige sur la berge de la rivière pour essayer de trouver un peu de fourrage. Une grande tente Whimper sert d'atelier à JC, où il vérifie le bon fonctionnement des bouteilles d'oxygène, les armatures, les réchauds Primus et nos autres équipements. S'il dispose de meilleurs outils que le pauvre Sandy à Irvine l'année dernière, ils n'en sont pas moins rudimentaires. JC est à même de braser, mais pas de souder. Il peut démonter puis remonter des appareils photos, des montres, des réchauds, des lanternes, des crampons et autres, mais n'a que peu de pièces de rechange. Il peut frapper le métal pour lui redonner une forme, mais pas forger de nouvelles pièces en cas de besoin. Par chance, après 2 jours de tests, JC nous informe que seules 14 des 100 bouteilles d'oxygène ont perdu de la pression, dont 9 seulement partiellement. Lors de la précédente expédition, 30 de leurs 90 réservoirs fuyaient. Lorsqu'ils en avaient dressé l'inventaire, à Shekardzong, nous explique le diacre, ils s'étaient rendu compte qu'elles étaient presque inutilisables. Le nouveau modèle de Mark V conçu par Sandy à Irvine l'année dernière et encore amélioré, notamment au niveau des joints, des valves et des débitmètres, grâce au talent de George Finch, de JC et de son père, l'ancien forgeron devenu fondeur, est apparemment une réussite. Si notre expédition échoue, sans même atteindre notre objectif de retrouver la trace de Lord Percival Bromley sur la partie basse de la montagne, ce ne devrait pas être par manque de ce que les Sherpas appellent l'air anglais. Nous ne sommes décidément pas inactifs. Le deuxième jour, une fois que les cargaisons acheminées par les mulets et les yaks ont été réparties en charges plus légères pour pouvoir être portées à dos d'homme, que certaines caisses ont été entreposées au camp de base et d'autres mises de côté pour être emportées au camp 1, 2 ou 3, nous nous retrouvons tous les 5, 3 Sahib, Pasang et Reggie, dans la grande tente pour finaliser notre stratégie. L'ascension du sommet est toujours prévue le 17 mai, dit le diacre. Nous trois et Reggie sommes accroupis, penchés sur des cartes topographiques et d'autres dessinées à la main. La lanterne suspendue au-dessus de nous siffle, Pasang est resté dans l'ombre, gardant l'entrée contre d'éventuels intrus.
Et à quelle date comptez-vous retrouver mon cousin Percy ?
Demande Reggie. Le diacre tapote sa pipe froide contre ses dents. L'air est déjà trop dense et imprégné d'une odeur de laine mouillée pour qu'il y ajoute sa fumée.
J'ai intégré des journées de recherche à partir de chaque camp le long du chemin, madame.
Mais votre objectif reste la conquête de l'Everest, dit-elle.
Oui. Le diacre s'éclaircit la gorge. Mais après avoir vaincu le sommet, nous pourrons poursuivre les recherches si nécessaire jusqu'à l'arrivée de la mousson. Reggie sourit et secoue la tête.
Je sais dans quel état sont rentrés les hommes qui ont établi les records d'altitude ici, sans même arriver au sommet. Bruce, avec des problèmes cardiaques, un choc traumatique et des gelures quand son appareil à oxygène a cessé de fonctionner. Morshid, Norton et Somerville tellement affaiblis qu'en redescendant en 1922, ils ont failli chuter d'un surplomb et n'ont eu la vie sauve que grâce à des cordes emmêlées et à l'assurage de Mallory. Des porteurs d'altitude morts d'embolie cérébrale ou après s'être cassés les jambes, d'autres renvoyés chez eux en raison de terribles gelures. Norton, qui a passé 60 heures à hurler de douleur l'année dernière pour cause de cécité des neiges,
le diacre balaie d'un geste ses objections. Personne ne dit que nous ne souffrirons pas dans la montagne. Il est possible que nous périssions tous. Mais si nous atteignons le sommet le 17 mai, il y a des chances pour que certains d'entre nous, voire tous, soient en état de mener les recherches avec les tigres Sherpa. Nous disposons de certains avantages que n'avait aucune des autres expéditions.
Dites-nous lesquels, je vous prie, demande Reggie.
Je vois que JC est très intéressé, tout comme moi. Pour commencer, les appareils à oxygène, répond le diacre.
Deux des 3 précédentes expéditions britanniques ont utilisé ce genre de dispositif,
fait remarquer Reggie d'une voix posée. Le diacre hoche la tête. Certes, mais beaucoup moins performant. Et il n'avait pas autant de bouteilles. George Finch est persuadé que les précédents alpinistes, dont je fais partie, en ont utilisé trop peu et trop tard. Le mal des montagnes commence à saper notre énergie et nos réserves dès le camp de base. Vous et moi y sommes habitués, madame. Mais vous voyez l'effet que ces 5000 mètres d'altitude ont déjà sur certains Sherpas et sur d'autres. Son coup d'œil vers moi est à peine un clignement. Au-dessus du col Nord, poursuit-il, et surtout au-dessus de 8000 mètres, notre corps et notre cerveau commencent à mourir. Pas seulement à fatiguer ou s'affaiblir, mais littéralement à mourir. Les précédentes expéditions n'ont distribué les bouteilles d'oxygène, même aux porteurs, que bien après le col Nord, et presque uniquement durant l'ascension. Nous en prendrons à partir du camp 3, et les tigres Sherpas aussi au besoin, même si nous sommes confinés dans les tentes, même dans notre sommeil.
Passang et moi avons passé 2 semaines sur le col Nord et sommes montés plus haut sans oxygène, dit Reggie.
Et vous vous êtes senti mal pendant tout ce temps ? Lui demande le diacre. Elle baisse les yeux.
Oui.
Avez-vous bien dormi, ou même dormi tout court certaines nuits?
Non.
Aviez-vous de l'appétit, même quand il vous restait des vivres?
Non.
Aviez-vous encore le courage, après un certain temps à cette altitude, d'aller chercher de la neige et d'allumer votre réchaud pour la faire fondre lorsque vous vouliez boire de l'eau ou préparer de la soupe?
Non.
Étiez-vous tous les deux déshydratés, sujets à des maux de tête et des vomissements au bout de quelques jours?
Oui,
soupire Reggie.
C'est inévitable sur l'Everest, non?
Le diacre secoue la tête.
C'est notre corps qui commence à mourir quand il s'approche des 8000 mètres d'altitude.
L'oxygène contenu dans ces bouteilles, le simple fait d'en respirer quelques litres la nuit en dormant, ne peut pas arrêter cette mort lente, mais peut la ralentir un peu. Nous offrir quelques jours supplémentaires où nous serons capables de penser clairement et de fonctionner normalement.
Nous allons donc utiliser de l'air anglais jusqu'en haut à partir du col Nord ?
Demande Jean-Claude. Oui, et même au col Nord s'il le faut. Je n'aime pas perdre la tête, mes amis. Or, cette montagne rend tout le monde fou. Et cause aussi souvent des hallucinations. Du moins au-dessus du camp 2, à la base de la cascade de glace. En 1922, j'ai grimpé pendant 2 jours avec un 4e homme sur notre cordée, un homme qui n'existait pas. La prise d'oxygène, même à faible débit, jour et nuit, réduira cet état. Assez, j'espère, pour nous donner la force d'atteindre le sommet et de retrouver la dépouille de Percival. Je me rends compte que Reggie n'est pas convaincue, mais que peut-elle y faire ? Elle sait depuis le début que notre but premier est de conquérir le sommet, même si, malade comme je le suis depuis 2 jours, j'ai perdu quelque espoir d'atteindre cet objectif. Il ne lui reste qu'à croire que nous ferons de notre mieux pour chercher Percy au cours de l'ascension, puis en revenant, si retour il y a. Le matin du 4e jour, alors que la tempête de neige montre des signes d'accalmie, nous nous réunissons de nouveau dans la grande tente pour revoir la stratégie du diacre. Ce n'est pas pour rien que toutes les expéditions britanniques ont été dirigées par des militaires, dit-il tandis que nous sommes penchés sur une carte de la montagne. Son regard s'attarde sur le visage de Reggie, ce qui me fait comprendre qu'il se lance dans une dernière tentative de persuasion. Cette manière d'attaquer, en installant un camp 1, puis un camp 2, et ainsi de suite jusqu'au camp 6 et 7 avant de tenter l'assaut du sommet, est la stratégie militaire classique pour tenir un siège.
Comme durant la Grande Guerre ? Demande Reggie.
Non, répond le diacre d'un ton sans appel. La Grande Guerre, ça a été 4 ans d'une folle guerre de tranchées. Des dizaines de milliers de vies détruites en un jour pour gagner quelques mètres de terrain. Reperdu le lendemain au prix du même sacrifice. Non, je parle des sièges classiques mis en œuvre depuis le Moyen-Âge, comme le siège des troupes de Lord Cornwallis à Yorktown, que votre général Washington, Jake, a appris de son ami français, un hochement de tête agissé, Lafayette. La manœuvre consiste à encercler l'ennemi pour lui couper toute retraite. Une péninsule, c'était bien puisque les navires français interdisaient à la marine royale anglaise de sauver Cornwallis et ses hommes. Et ensuite, on bombarde. Sous les bombardements, on avance les lignes, mètre par mètre, kilomètre par kilomètre, jusqu'à ce qu'on arrive juste devant les défenses ennemies. Enfin, un rapide assaut final et la victoire.
Mais aucun de vos généraux anglais sur l'Everest n'a avancé ses lignes assez près du sommet pour lancer cet ultime assaut.
Fait remarquer Jean-Claude. Le diacre hoche la tête, mais je me rends compte qu'il est distrait. Peut-être par le regard fixe de Reggie. Les expéditions de 1922 et 1924 comptaient établir un camp 7 à environ 8300 mètres, mais aucune des deux n'y est parvenue. Mallory et Irvine, et nous autres avant eux, ont lancé l'assaut depuis le camp 6 à environ 8150 mètres.
Ça ne fait que 150 mètres d'écart,
intervient Reggie, baissant les yeux sur la carte du glacier du Rongbuck et de la montagne. 150 mètres verticaux, ça fait une demi-journée d'escalade à ces altitudes. Le diacre joue avec sa pipe éteinte.
Norton et Mallory n'ont pas pu établir de camp 7 parce que les porteurs ont flanché, n'est-ce pas?
Dis-je. J'ai entendu et lu tous les comptes rendus.
Ils n'avaient tout simplement pas la force de porter les tentes plus haut?
En partie, acquiesce le diacre. Mais les alpinistes non plus n'étaient plus capables de porter quoi que ce soit au-dessus du camp 6. Et là, je vous parle aussi de moi et de Finch en 1922. Pour tenter un assaut sans oxygène, il a toujours été prévu d'établir un camp 7. Quand Mallory a décidé de le tenter avec Irvine, équipé d'appareils à oxygène, ces 150 mètres supplémentaires ne paraissaient pas faire beaucoup de différence.
Mais d'après vous,
si,
dit Reggie. Oui. Si elle se voulait ironique, l'intention échappe manifestement au diacre. Il pointe la tige de sa pipe sur un point de la carte au-dessus de notre camp 4 marqué à l'encre et sous la jonction entre le col nord et la longue arête nord-est. Le problème n'est pas seulement l'altitude, aussi débilitante soit-elle. Les dalles sont plus abruptes à mesure qu'on se rapproche de l'arête nord-est et il y a beaucoup moins de neige malléable. Très peu d'endroits où tailler une plateforme ne serait-ce que pour une seule tente. Et l'alpiniste n'a pas assez d'énergie pour déplacer des cailloux afin d'en créer une. Mais le pire là-haut, c'est le vent. Il est déjà terrible au camp 4, mais à l'approche de l'arête nord-est, il tourbillonne presque en permanence. Il est capable d'emporter un alpiniste, voire même une tente.
Au départ, vous vouliez un assaut rapide de style alpin à partir du camp 5 à 7700 mètres d'altitude,
dit J.C.
Trois alpinistes munis d'un simple sac à dos contenant du pain, de l'eau, du chocolat et peut-être un drapeau à planter au sommet.
Le diacre a un sourire désabusé.
Et peut-être un sac de bivouac, dis-je,
pour le moment où nous serions surpris par le coucher du soleil en descendant le deuxième ou le premier assaut au retour. C'est là le souci, dit le diacre en grattant sa joue rugueuse. Personne n'a jamais survécu à une nuit de bivouac à cette altitude. Il est déjà difficile de survivre dans une tente avec un réchaud en état de marche au camp 4, 5 et 6. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé que nous devions mener l'assaut à partir du camp 7, ou, si c'est impossible, d'un camp 6 plus élevé, comme Mallory et Irvine l'ont fait. Mais en partant plus tôt. Peut-être même la nuit, comme Lady Bromley Montfort l'a suggéré. Ces petites lampes frontales fonctionnent plutôt bien. Mais je ne sais toujours pas comment ne pas mourir gelé en tentant de grimper avant l'aube ou après le coucher du soleil.
Puisqu'on parle de survie, commence Reggie, excusez-moi une minute.
Elle sort de la tente et de la neige s'engouffre à l'intérieur. Passang renoue la lanière de la porte. Le diacre lève vers nous un regard surpris, mais nous ne pouvons que hausser les épaules. Peut-être a-t-il dit quelque chose qui lui a déplu. Elle revient quelques minutes plus tard, secouant ses longs cheveux noirs pour en retirer la neige, les bras chargés de ce que nous prenons d'abord pour d'autres vestes en duvet d'oie et tissus de montgolfière.
Vous vous êtes moqués de moi tous les trois parce que j'ai emporté une machine à coudre, dit-elle,
et avant que nous puissions protester, elle insiste.
Inutile de nier, je vous ai entendu vous en plaindre. La moitié du chargement d'un mulet, avez-vous dit. Et je vous ai aussi entendu ricaner le soir pendant la randonnée quand j'étais dans ma grande tente et que vous surpreniez le bruit de la pédale.
aucun de nous ne peut démentir.
« Voici à quoi je travaillais. »
poursuit-elle en nous tendant les modèles encombrants mais légers. « 3 pantalons en duvet d'oie. »
« C'est donc pour ça qu'elle a pris nos mesures à la plantation, songeai-je. »
« Je crois que M. Fitch n'a résolu que la moitié du problème, » dit-elle. « Il reste trop de chaleur corporelle perdue à cause des sous-vêtements et des pantalons de soie, de coton et de laine. J'en ai cousu assez pour nous 4, Passang et 8 des tigres Sherpa. Je ne peux pas promettre que cela nous permettra de survivre une nuit de bivouac au-dessus de 8500 mètres. » Mais cela nous donnera une meilleure chance de continuer à avancer avant l'aube et après le coucher du soleil.
Ils vont se déchirer, décrète le diacre.
JC et moi sommes occupés à retirer nos bottes pour enfiler nos nouveaux pantalons en duvet d'oie.
Ils sont faits dans le même tissu que Finch a utilisé pour les parkas,
objecte Reggie.
J'ai aussi ajouté un surpantalon de coton huilé, léger, plus résistant que les anoraks que vous portez par-dessus les duvets de Finch. Et vous remarquerez que tous vos pantalons, intérieurs et extérieurs, ont des boutons pour les bretelles et un bouton de braguette. Ces dernières m'ont donné du fil à retordre, vous pouvez me croire.
Sa remarque me fait rougir.
J'utilise ce qui me reste de tissu de ballon pour confectionner des capuches en duvet, à fixer sur nos vestes Finch. Et je dois dire que c'est du boulot d'actionner cette machine à coudre à pareille altitude.
Le diacre serre les dents sur sa pipe froide et fronce les sourcils.
Où diable avez-vous trouvé du tissu de ballon ?
J'ai sacrifié la montgolfière de la plantation,
répond Lady Catherine Christina Regina Bromley Montfort. Jean-Claude et moi passons 20 minutes à parader dans le camp de base, sous la neige et par moins 25 degrés Celsius, vêtus de la parka de Finch, du nouveau pantalon en duvet sous son surpantalon, de l'anorak coupe-vent de Shackleton, de la capuche en duvet que Reggie vient de terminer, et de 3 épaisseurs de gants et de moufles. Avec le bonnet d'aviateur en cuir et laine enfoncé sous la nouvelle capuche, une cagoule et nos lunettes, on a une sensation de chaleur étonnante dans de si terribles conditions climatiques. Reggie sort dans le même accoutrement. Elle ne ressemble plus à une femme, je trouve. En vérité, elle ne semble plus très humaine.
« J'ai l'impression d'être le bonhomme Michelin !»
dit Jean-Claude, riant sous le rabat ménagé pour la bouche dans la cagoule. Reggie et moi rions, nous aussi. J'ai déjà vu le Bibendum en pneus sur des affiches et des panneaux publicitaires de cette marque, dont il est la mascotte depuis 1898.
« Ajoutez l'appareil à oxygène, » dit Reggie, « et nous aurons le sentiment d'être des Martiens. »«
Nous serons des Martiens !» renchérit JC en riant encore. L'idée me vient alors que nous serons peut-être très éloignés de l'activité humaine qu'est l'escalade, cette interaction avec la pierre, la neige et le monde, dans les jours et les semaines à venir. Le diacre sort de sa tente, son long piolet à la main. Il porte son duvet Finch, ses moufles et son casque, mais en bas il est toujours en knickers, bandes molletières et bottes en cuir. Puisque nous sommes tous dehors et que le temps promet de s'améliorer, que diriez-vous de monter quelques tentes Whimper au camp 1, puis d'aller voir le glacier au-dessus? Nous n'avons pas besoin de crampons ni des piolets courts.
Sans les tigres? Demande Reggie.
Le diacre secoue la tête. Faisons de cette première reconnaissance une sortie réservée aux Sahibs. Nous allons chercher nos sacs à dos, de la corde et de longs piolets. Le diacre charge chacun de nous d'environ 20 kilos de matériel, toile de tente, piquets, cordes supplémentaires, bouteilles d'oxygène, réchaud primus et conserve de nourriture. Même Reggie a un paquetage complet. Passang, seulement vêtu des robes de coton et des écharpes qu'il avait dans la grande tente, les bras croisés et l'expression désapprobatrice, nous regarde partir, courbé face au vent et à la neige, titubant pour contourner la barrière de pierre, avant de remonter la vallée parsemée de blocs de roche et de glace du glacier du Rongbuck.